Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Qui est en studio aujourd'hui? Je fais rapidement un tour de table. Sachant que chacun aura l'occasion de mieux se présenter tout à l'heure. Je suis donc Lucien, bénévole militant à Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc, également de Micro Rebelle.
Salut.
Luc est salarié à Micro Rebelle. Enfin, Touga est également présente. Elle est adhérente de Micro Rebelle.
Bonjour tout le monde.
Je vous propose tout de suite une petite revue de presse locale. La presse cette semaine consacre plusieurs papiers au transport public qui sont gratuits à Dunkerque depuis le 1er septembre. C'est d'autant plus intéressant à signaler que dans le bassin minier et dans le cadre des travaux pour la modernisation du réseau Tadao, la demande de gratuité dès l'ouverture des lignes en 2019 devrait s'intensifier. Nous avons déjà eu l'occasion d'inviter plusieurs militantes et militants en nos studios et nous y reviendrons sans aucun doute. La Voix du Nord, par exemple, évoque « À Dunkerque, le bus devient gratuit, la ville fait la fête ». Le journal cite notamment le maire de la ville. La mesure vise à redonner du pouvoir d'achat aux Dunkerquois et rappelle qu'il s'agit d'un engagement du maire lors de la campagne électorale de 2014. La politique de la ville de Dunkerque en matière de gratuité est très claire et très lisible. La gratuité devient permanente et s'applique à tous les voyageurs, alors que d'autres collectivités réservent la gratuité à leurs habitants seulement ou à certaines catégories d'âge. La Voix du Nord évoque par ailleurs le cas de la ville de Compiègne, dont les bus sont gratuits depuis 1975. Enfin, Liberté Dimanche donne également la parole au maire de Dunkerque, qui observe « Avec la gratuité du transport, notre ville est désormais regardée, son image change et se modernise ». Un message dont les élus des agglomérations du bassin minier, donc la CAC et la CAL, pourraient avantageusement s'inspirer au plus grand bénéfice des habitantes et habitants du territoire ou au plus grand bénéfice de plusieurs enjeux écologiques. L'avenir de l'Artois de cette semaine part en croisade contre les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui pillent les sites Internet de presse. Le journal précise « Sur Internet, les contenus en ligne de votre hebdomadaire, comme de toute la presse française, sont pillés par les agrégateurs de contenus. Une forme de droit d'auteur doit s'appliquer. » Et d'ajouter, voilà pourquoi les journaux français, dont l'Avenir de l'Artois, sont engagés dans un bras de fer avec les géants du net, les fameux GAFA. L'éditorialiste du journal met d'ailleurs les points sur les i. Vous savez que l'information de proximité a de la valeur. Recueillie, recoupée, vérifiée, mise en forme par des professionnels, elle a quelque chose de plus. Google et Facebook, entre autres pirates du web, en ont parfaitement conscience. » Fin de citation. Bigre, loin de nous, à micro-rebelle, l'idée de défendre ces fameux GAFAM. Ceci étant, l'avenir de l'Artois, en choisissant l'attaque contre Google et consorts, s'évite soigneusement de s'interroger sur son propre contenu éditorial, qui est, il faut bien le souligner, d'une extrême pauvreté et indigence, toujours à la recherche du titre accrocheur, sensationnaliste. Nous avons par exemple relevé, dans l'avenir de l'Artois de cette semaine, titre du premier article, et en gros caractères sur une pleine page, « Il demande des photos dénudées à des fillettes ». Titre du deuxième article, « Il remet en cause sa mise à l'épreuve ». Titre du troisième article, « Il agresse sa mère avec un arbre à chat ». Titre du quatrième article, « Il poignarde son frère par colère ». On ne sait pas si ce sont ces articles que l'avenir de l'Artois qualifie d'informations de proximité, mais on peut s'interroger si ce sont ces informations que le journal craint de se voir piller par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. De la même manière, on reste perplexe devant les petites annonces du journal. Des petites annonces qui nous invitent à écouter des histoires de sexe au téléphone, à contacter, je cite, « une belle brune aux jolies formes pour moment plaisir à deux » ou encore, je cite toujours, « une femme blonde qui recherche un homme viril et puissant ». Le tout en contactant des numéros de téléphone surtaxés. On n'est pas très loin de la mise en relation avec des réseaux de prostitution. Bref, nous ne pouvons qu'inviter l'avenir de l'Artois, qui craint de se voir siphonner ses contenus par les GAFAM, de mettre en œuvre une réflexion sur ces contenus, leur finalité et dans quel type de société ils prennent place. Dans Liberté Hebdo maintenant, le journal communiste évoque la rentrée du parti dans le département, une rentrée placée sous le signe de l'internationalisme. Avec un exemple sur lequel Micro-Rebelle a déjà effectué des reportages, la question de la campagne de décommunisation en Pologne. Trois militants du Parti communiste, le KPP, encourent notamment 2 ans de prison. Et une pétition circule pour demander l'arrêt des poursuites. Enfin, La Voix du Nord évoque le procès de Clément Méric, dont nous avons parlé la semaine dernière. Rappelons que Clément, militant à l'action antifasciste Paris-Banlieue et syndicaliste à Solidaire étudiante, a été tué par des nervis d'extrême droite le 5 juin 2013. La Voix du Nord relate donc le procès qui a débuté le 4 septembre, procès des assassins de Clément Méric. La Voix du Nord commence son article en indiquant, je cite, « Un malheur n'arrive jamais seul. Esteban Morillo, l'un des accusés, a appris la veille de l'ouverture de son procès qu'il était au chômage. Et plus loin, ses 3 ex-skinheads, alors crâne rasé et bombers de rigueur, ont aujourd'hui laissé une longueur raisonnable à leurs cheveux et présentent sagement chemise, veste et lunettes choisies. Et puis Esteban Morillo relate au procès son histoire, sa vie de famille en Picardie, et puis les rencontres qu'il a fait à 20 ans, des gens de troisième voie et son leader, Serge Ayoub, et il précise « J'étais un gamin ». Au final, la présidente du tribunal, devant une telle image, rappelle qu'il ne faudrait pas oublier qu'à l'époque de son CAP, il a été plusieurs fois convoqué pour port d'insignes et de bijoux néo-nazis. Et elle lui fait dire qu'il a connu la violence bien avant ce drame. Cet article de La Voix du Nord nous laisse donc entrevoir la ligne de défense des accusés. Ils jouent l'erreur de jeunesse, le passé oublié. Ils ont effacé leurs tatouages vichistes et ils ont des trous de mémoire. À titre d'exemple, Esteban Murillo publiait Mein Kampf sur sa page Facebook. Au procès, Serge Ayoub, le leader du groupuscule Troisième Voie, a transmis un certificat médical justifiant son absence, ainsi qu'une lettre dans laquelle il redoute la violence des militants antifascistes. Tout cela s'inscrit dans la stratégie de faire croire que les fascistes se seraient simplement défendus le jour de la mort de Clément. Le procès dure jusqu'au 14 septembre. Il peut être l'occasion de faire la lumière à la fois sur le meurtre de Clément et sur la violence de l'extrême droite et ses mensonges. Après cette revue de presse, on vous propose une interview préenregistrée à la braderie de Lille cette année. Micro-Rebelle y a rencontré Camille et Claire, qui sont mobilisés contre les grands projets de la ville de Lille et de la métropole européenne de Lille concernant la friche Saint-Sauveur. Quelques rappels sur la friche Saint-Sauveur. En 2009, la ville de Lille et la métropole européenne de Lille, la MEL, décident de transformer la friche Saint-Sauveur, un espace de 23 hectares en pleine ville qui appartenait à la SNCF. En 2012, donc 3 ans plus tard, un premier projet est esquissé. Il prévoit une densité très forte de logements, de surfaces commerciales, de bureaux, très peu d'espaces verts. Et dernière étape, la plus récente, en décembre 2016, les élus décident de construire sur la friche une nouvelle piscine olympique sur l'espace appelé le Belvédère, lequel devait rester initialement un espace vert. On peut rappeler qu'il existe déjà, à Lille, une piscine olympique au bois blanc, équipement qui n'a jamais pu être homologué, faute d'un vice de construction. Il y avait une couche de carrelage en trop qui rétrécit le bassin. Nous écoutons donc Camille et Claire en différé de la braderie de Lille cette année.
Quand on parle de la friche Saint-Sauveur, c'est donc le site de l'ancienne gare de marchandises. On parle d'un vaste espace en plein cœur de ville, c'est-à-dire 23 hectares, ce qui est l'équivalent de 33 terrains de football. Donc c'est un site qui a été délaissé depuis la cessation des activités de la gare de marchandises en 2003. Et donc on se trouve 15-16 ans après en se disant qu'est-ce que nous avons attendu, pourquoi avons-nous attendu si longtemps avant de porter à la connaissance d'un grand nombre cette chance. C'est la dernière réserve foncière d'ampleur pour donner à Lille son deuxième poumon vert. Parce qu'il y a deux façons de présenter Lille. Lille est deux palmarès, au fond. Lille, c'est donc la capitale européenne de la culture en 2004. Ce sera la capitale mondiale du design en 2020. Ce sera, si la piscine olympique est construite, ce sera le centre d'entraînement pour les athlètes aux Jeux olympiques à Paris en 2024. Et c'est aujourd'hui l'une des 3 ou 5 villes où il fait bon investir. Mais il y a une autre façon de présenter Lille et une autre série de palmarès. Lille, c'est une ville parmi... Lille, l'agglomération lilloise, fait partie des villes les moins bien dotées en espace de nature. Et il faut savoir que pour arriver à 14 mètres carrés d'espace de nature par habitant sur l'île, on doit compter la surface des 2 cimetières lillois, ainsi que les interstices et ronds-points routiers. Bon. Par ailleurs, l'île, c'est une... Par ailleurs, l'agglomération lilloise, c'est la deuxième agglomération la plus polluée de France. Enfin, Lille, c'est là où on trouve les plus grandes inégalités, comme on dit, socio-spatiales, c'est-à-dire comment se répercutent les inégalités sociales dans la configuration de l'espace urbain. Voilà, donc, par rapport à ce projet immobilier qui vient encore densifier la population et qui risque d'accuser ces fameuses inégalités socio-spatiales. Pourquoi ? Parce que quand on cherche un parc, il faut aller du côté des beaux quartiers. C'est-à-dire, on habite le Vieux-Lille, on habite le quartier Vauban, ou encore on habite l'Ambersart. Et là, on dispose d'un parc de 60 hectares, boisé, irrigué, avec des points d'eau, et puis avec en avant-poste le jardin Vauban, qui lui aussi est boisé, lui aussi avec un point d'eau, et avec ses ombres rafraîchissantes, n'est-ce pas ? À l'inverse, du côté de Moulins, du côté de Fives, du côté du quartier Oisem, on ne trouve aucun espace de nature. Donc aujourd'hui, après être passé par de nombreuses étapes qui ont visé à faire connaître ce lieu, qui est paradoxalement, il est visible par tous depuis le métro aérien, entre les stations Lille Grand Palais et la porte de Valenciennes. Donc il y a au fond des dizaines de milliers de passagers du métro qui ont vu ce site sans se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut faire de cet espace ? Donc aujourd'hui, nous en sommes à l'étape juridique, où il s'agit d'attaquer au tribunal administratif les différentes délibérations qui ont rendu possible un projet immobilier, enfin qui voudraient rendre possible un projet immobilier, qui consiste en la création de 2500 logements, 35 000 m² de bureaux, 25 000 m² d'espaces commerciaux, et donc 20 000 autres mètres carrés d'équipement public, c'est-à-dire la piscine olympique.
Alors, est-ce que tu peux, toi Camille ou toi Claire, hein, revenir sur la genèse de la lutte, de l'opposition, de la résistance à ce projet pharaonique ?
Il y avait c'était en 2014, c'est ça, une contribution collective, donc plusieurs associations coordonnées par la MRES, donc la Maison Régionale de l'Environnement et de Solidarité, qui avait donc coécrit avec d'autres associations une contribution pour apporter certaines critiques assez douce à l'époque au projet qui était proposé par la ville, hein, qui n'était pas propriétaire encore, puisque c'était donc la SNCF, enfin ARFF. Et en fait, aucune réponse a été apportée à cette contribution, donc aucune écoute de ce qui était plutôt des interrogations formulées par les associations. Et surtout, aucune ouverture, encore une fois, ce que Camille disait, c'est que le site n'était pas ouvert, alors même qu'on demandait aux populations d'apporter leur avis sur une concertation. C'est une obligation, une concertation dans ce genre de projet urbain. Malheureusement, en général, ça se résume à soit de l'information, soit de la consultation. Bien que beaucoup de moyens ont été déployés à l'époque pour ça, en tout cas matériel. Et du coup, face à ce constat, en fait, cette sourde oreille, je dirais, il y a plusieurs personnes qui ont souhaité se mettre en collectif. Donc on a créé un collectif qui s'appelle Faites la Friche, qui existe toujours, et qui se donnait pour but d'ouvrir le site. À l'occasion d'événements festifs, on a aussi fait un forum qui invitait d'autres associations militantes à liées à l'environnement à parler de leur lutte. Et du coup, faire de cet espace-là un espace de rencontre et d'échange autour des questions que posait l'aménagement ou non, en tout cas la bétonisation ou non de ce site, et des questions qu'on pouvait se poser en étant sur le site même. Donc en ayant vraiment une idée de ce que ça pouvait être que cette friche qui est vraiment immense, hein, plusieurs hectares. Et puis on a essayé quand même d'avoir des dialogues, enfin de créer des dialogues avec la municipalité, avec la MEL, ce qui était évidemment assez difficile. Et du coup, plus récemment, on a créé cette association, donc PARC, pour la préservation, l'aménagement et l'appropriation collective du site Saint-Sauveur et du Belvédère, qui est donc le site concerné par la construction de la piscine olympique, qui arrivait d'ailleurs comme un cheveu sur la soupe. Qui faisait pas partie du projet initial et qui se trouve que le projet de piscine est sur une partie du site qui est une des plus belles puisque les plus boisées, avec un relief qui est vraiment agréable à Lille, qui est une ville très plate, et surtout on est en présence d'eau souterraine qui peuvent être pollués en fait, puisqu'il y a un bassin de 50 mètres de profondeur. On rappelle que la nouvelle piscine olympique de Dunkerque. Non, c'est ça, pardon.
Le bassin ne fait pas 50 mètres de profondeur. C'est la fosse de plongée qui va jusqu'à. 40 mètres, c'est Dunkerque. Ouais, non, 40 mètres. 40 mètres.
Peut-être. Donc tu évoquais première réaction 2014, donc on est en 2018. Aujourd'hui, la température, c'est quoi? C'est il y a une vraie résistance, une belle mobilisation, ou alors c'est difficile. C'est une thématique qui commence à interpeller les gens ou...
En fait, je pense qu'il y a énormément de gens qui, sont solidaires et souhaitent voir cet espace gardé, souhaitent le plus d'espace vert, en fait, et donc se posent contre la bétonisation du site. Simplement, aujourd'hui, il y a une espèce de concept qu'on duplique dans aujourd'hui à peu près toutes les métropoles, qui s'appelle le concept de densification. Qu'on apporte en réponse à l'étalement urbain, qu'on a effectivement énormément suivi dans les 30-40 dernières années. Le problème, c'est que la densification, elle doit être pensée en fonction du cas par cas. Et en l'occurrence, Lille souhaite construire aujourd'hui plus de 1200 logements par an dans une ville qui aujourd'hui est très minéral, on le rappelait, et très pauvre en espaces verts. On se demande bien comment autant de gens pourront vivre les uns sur les autres Donc oui, densification, d'accord, mais en réalité, la densification de l'île, c'est une sorte de course en fait à la métropole, à l'attractivité, et qui, d'une part, en fait, entraîne un déficit donc en espace naturel, et donc un réel problème de santé publique, un réel problème d'enjeu écologique. Et puis aussi, on le dit moins, mais une réelle surconcurrence des métropoles vis-à-vis de moyennes et petites communes. Et on peut citer en fait toutes les moyennes et petites communes qui aujourd'hui se trouvent dans les 30 minutes, dans la couronne des 30-40 minutes de l'île, et en fait qui se font complètement vider au niveau de leur centre-ville, puisque oui, on affiche un besoin de créer du logement aujourd'hui à Lille comme dans d'autres métropoles. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on crée toutes les centres, les polarités d'attractivité dans ces endroits-là, en fait.
Ouais, finalement, dans ce que tu dis, c'est finalement un modèle, ce modèle effectivement où des métropoles ou des eurométropoles se font concurrence pour attirer des investissements, pour attirer... des managers de haut niveau dans lesquels, auxquels on va proposer des activités haut de gamme. Finalement, c'est le modèle de développement du capitalisme aujourd'hui qu'on remet en cause, finalement.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, on se fait un peu traiter de... C'est marrant parce que la question écologique, environnement revient souvent et Martine Aubry nous a souvent critiqué en disant qu'on ne pensait pas aux gens, qu'on n'avait pas une vision sociale, qu'on n'avait pas envie d'aider les gens qui aujourd'hui n'ont pas de logement. Et on voit bien que la question, elle est beaucoup plus complexe et qu'on ne pourra pas vivre les uns sur les autres plus longtemps que ça, et qu'il faut penser autrement et en allant plus loin que la densification à tout prix, et que un parc ou en tout cas un espace vert qui serait co-imaginé, enfin en tout cas imaginé collectivement, et qui pourrait être agrémenté d'équipements ouverts à tous, hein, qui serait voilà public, a priori répondrait plus aux attentes des Lillois aujourd'hui.
Très bien, je te remercie. Alors peut-être, tu évoquais la mairie de Lille qui campe sur ses positions, la MEL qui n'est pas plus réceptive. Donc ça veut dire que ça ne peut dépendre que de la mobilisation des citoyens. Comment est-ce que vous le sentez, Camille et Claire, cette mobilisation ? Est-ce que il y a une perspective ? Quels sont les axes sur lesquels vous souhaitez appuyer ?
Il y a une échéance électorale en 2020 et notre stratégie consiste à différer l'obtention des permis de construire et évidemment les chantiers qui en dépendent jusqu'à cette échéance. Et la stratégie donc c'est de gagner du temps en engageant une action en justice. Donc aujourd'hui, après avoir fait des tentatives d'occupation, après avoir essayé auprès des institutions d'obtenir une convention d'occupation temporaire pour pouvoir être sur le site et inviter le plus grand nombre à s'y retrouver. Aujourd'hui, la friche a été enclose par une palissade en béton. C'est la première étape de bétonisation et donc les institutions aujourd'hui criminalisent toute entrée, toute pénétration du site. Donc on n'en est plus à l'étape d'occupation de lieu. On en est à cette étape juridique grâce à laquelle on compte gagner du temps jusqu'en 2020.
C'est pas un petit peu risqué d'attendre un changement suite à une échéance électorale ?
Non, pour certains d'entre nous, il y a une première expérience qui a été concluante. Ça concerne un espace beaucoup moins vaste que celui de la Friche Saint-Sauveur. C'est quelques hectares dans le centre-ville également, donc dans le Vieux-Lille, un espace de nature qui est autour de la cathédrale de la Treille. Et ça a été notre stratégie. Pour lutter contre le projet immobilier, on est allé en justice. On n'a pas gagné sur le fond, mais la durée était suffisante pour que les permis de construire tombent, soient caduques. Après quoi, Martine Aubry a pu se féliciter qu'il y ait un nouvel espace de nature dans le Vieux-Lille, qu'on appelle désormais le Jardin de la Treille.
Très bien, peut-être une dernière question pour conclure. C'est Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut adhérer à l'association, on peut aller sur un site internet, il y a une adresse de contact. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que nos auditrices et nos auditeurs peuvent soutenir, s'impliquer, se renseigner?
Alors oui, d'abord on a un site, Parc Saint-Sauveur WordPress, voilà wordpress.com. On a aussi une page Facebook qui est du nom du collectif, donc Faites la Friche. Et puis surtout, on a une AG à venir, ce sera la première grande AG de l'association Parc qui se tiendra donc le 20 septembre, a priori à la Maison régionale de l'environnement et de solidarité. Je crois que c'est acté. Pour plus d'informations, on va publier très rapidement sur la page Facebook. Et voilà, il faut bien comprendre qu'effectivement, quand on est citoyen, on n'a pas beaucoup de recours contre des institutions qui sont aussi grosses. Et que tous les recours, en tout cas ceux qu'on peut avoir, donc c'est-à-dire des recours juridiques, ont un coût. Et donc toutes les personnes qui le souhaitent peuvent soit adhérer et du coup participer à l'association, à apporter des nouvelles idées et puis à contribuer d'une manière ou d'une autre. Ou pour les personnes qui on n'aurait pas le temps ou pas l'énergie ou seraient sur d'autres luttes, ben il y a toujours la possibilité de donner. Il n'y a pas de petit don, on le rappelle. Et voilà, ça nous permettra aussi de financer les avocats qui travaillent durement.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Musique libre à présent sur Micro Rebelle, musique ou titre encore une fois dégoté sur l'excellent site Zik Libre en Bib. Alors le producteur s'appelle Glassboy, c'est un peu difficile à décrire parce que ça part vraiment dans tous les sens, d'un titre à l'autre, tout un tas d'instruments, de sonorités. Et le morceau s'appelle The Dregs of Summer. We'll be right back. savez peut-être, si vous vous êtes rendu dans votre bureau de poste et que la guichetière ou le guichetier vous en a parlé, peut-être l'avez-vous lu dans les journaux. Il y a actuellement, notamment à Liévin, à Aix-Noulette et à Angres, un plan de restructuration de la poste avec fermeture de bureaux, réorganisation des emplois du temps. C'est une énième restructuration, on en reparlera certainement après le reportage. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je me suis rendu à Hénin-Beaumont pour rencontrer deux délégués syndicaux de la Poste, deux délégués CGT.
David Sculerec, secrétaire départemental à la communication au niveau de la CGT FAPT 62.
Pierre Lebon, donc secrétaire général de la FAPT, FAPT 62, donc Fédération des activités postales et télécommunications.
On lit beaucoup dans les journaux locaux actuellement qu'il y a des restructurations, des réorganisations, des possibles fermetures de bureaux aussi. Comment ça se passe dans le bassin minier, par exemple à Liévin ?
Sur Liévin, il faut savoir que pour mars 2020, il y aura une nouvelle PPDC multiflux, donc c'est-à-dire c'est un gros centre de tri où tous les colis vont être traités sur une partie du Nord-Pas-de-Calais, donc à 30 km à la ronde de Liévin, donc en passant par Béthune-Brouet, Lens-Liévin, Hénin-Caravin, une partie du Douaisy et une partie de Wavrin, dont Villeneuve-d'Ascq. Tous les colis donc, vont être traités avec une partie de Paris également, avec plusieurs liaisons. Il y aura la création aussi sur Douvrin de la future plateforme colis qui devra arriver aux alentours de janvier 2020. Donc pour éviter d'avoir la grosse période de pic période pour les colis de Noël. Donc tout sera centralisé sur Liévin. Création donc environ de 120 tournées colis plus le courrier qui sera centralisé et trié au niveau de Liévin. Donc ça veut dire en gros que tous les facteurs des différents centres, des différents bureaux pour les colis seront centralisés sur Liévin. Ils viendront prendre leur départ sur Liévin, charger leur véhicule et ensuite partir en distribution sur leurs tournées respectives. Pour le courrier, tout le courrier sera trié sur Liévin, dispatché ensuite dans les différents bureaux de poste pour être mis à disposition des facteurs pour partir en distribution.
Il va y avoir aussi un impact de cette réorganisation au niveau des bureaux de poste, soit des fermetures ou des plages horaires réduites. Comment ça va se passer ?
Il faut savoir qu'on parlait de rang tout à l'heure. Oui, on va réduire les horaires d'ouverture. Alors, on se base sur le taux de fréquentation dans les bureaux par rapport aux pièces comptables effectuées par les agents. Donc effectivement, plus on réduit les horaires d'ouverture, moins il y a de pièces comptables, et forcément la direction s'en servira pour dire il y a plus assez d'activité, on réduit, on ferme le bureau, on propose à la mairie d'ouvrir une agence communale ou agence postale pour... en rémunérant le travail fait, quoi, mais en se désengageant, en réduisant le personnel. Et voilà. Donc on rencontre ce type de fermeture aussi sur la plaque de Liévin. Il y a Grenet, il y a Aix-Noulette. Donc déjà Grenet, ils seront impactés aussi parce qu'ils vont fermer tous les lundis, je crois, ou tous les après-midi ils ferment, donc plus une journée dans la semaine, je ne sais plus laquelle. C'est un peu ce qu'on ressent sur un peu pas mal de bureaux. Sur Drocourt, c'est le même cas, sur Beaumont. Voilà, donc c'est limiter les bâtiments de la poste pour faire des gains de productivité sur les bâtiments, sur les agents. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de la stratégie de la direction de la poste que de baisser soit la quantité, soit la qualité du service ? Et une fois qu'effectivement il baisse, ça justifie la suppression des bureaux ?
C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on ressent, c'est ce que les gens ressentent aussi. On va en arriver à ce que les gens, pour un recommandé ou pour une lettre recommandée, soient obligés de faire 20-25 km. Il ne faut pas oublier, c'est la population vieillissante aussi dans ces villages. On est allé dernièrement sur Élodie-Louette qui va fermer aussi, s'il n'est pas fermé. On avait rencontré le guichetier et on avait fait signer une pétition quand on y est allé pour les gens qui viennent régulièrement. Et eux, ce qui se plaignaient, c'est de devoir aller à Lens, parce que Lens, c'est des difficultés pour se garer, la zone bleue et tout ça. Sur Élu, c'était beaucoup plus facile, quoi. Et comment y aller ? Il faudra prendre le bus, là, on vient à pied, quoi. Donc c'est tout ça, quoi. Donc le côté humain, je crois que, bon, passe après le côté financier, quoi.
Et quels sont les autres arguments qu'emploie la direction pour justifier toutes ces restructurations et ces fermetures ?
Le problème du courrier, c'est la baisse du trafic. 7% annoncé à peu près par an, une baisse de trafic de... Ça avait été annoncé à peu près 50% sur quelques années. Hein. Donc effectivement, chacun peut s'apercevoir que le courrier baisse. Hein. Avec la dématérialisation des factures et tout ça, on est sans cesse sollicité pour recevoir notre facture sur Internet. Forcément que ça impacte le facteur. Mais bon, derrière ça, il y a des nouveaux services qui arrivent. Des services d'aide à la personne, des services ponctuels. Par exemple, surveiller une gare où il n'y a pas de salariés qui travaillent. On va être chargé d'aller voir les bâtiments s'il n'y a pas de dégradation et tout ça. Donc il y a un facteur qui passerait un samedi, par exemple, et puis faire des photos s'il y a des dégradations, par exemple. Donc c'est un service.
Malgré tout, on annonce effectivement avec la dématérialisation une baisse du trafic du courrier, mais il y a quand même aussi de plus en plus de colis. Il y a énormément de gens qui maintenant commandent par Internet. J'imagine que là-dessus, bon, c'est en quelque sorte un marché pour la Poste.
Disons que le colis, le trafic augmente d'année en année, on le voit, contrairement au courrier. Mais ce qui se passe, c'est que pour le courrier, on dit que le courrier baisse, mais le facteur, quand il démarre le matin, il y a toujours autant de courriers parce que ses tournées sont rallongées. Au niveau des colis, le trafic colis prend de l'ampleur d'année en année, je le répète, sachant qu'il n'y a pas de création d'emploi pour l'instant. Les agents sont submergés de travail, c'est la course, on est chronométré. Sachant que la plupart du temps, vous partez au matin avec un véhicule qui est surchargé, vous êtes chronométré, vous n'avez pas le temps de prendre la pause méridienne. Ensuite, l'après-midi, il faut redémarrer à 15h faire de la collecte pour ramasser les clients qui ont payé le service pour le courrier. Donc c'est sans cesse la course.
Je reviens sur les restructurations, les réorganisations. Est-ce qu'il est prévu des suppressions d'emplois ? Et également, comment ça impacte l'emploi ? Je veux dire, la manière dont travaillent les facteurs, les guichetiers, les trieurs, trieuses.
Il faut savoir que pour la future réorganisation qui aura lieu en 2020, tous les départs à la retraite, on va les favoriser. Donc, il n'y aura pas de création d'emplois. On va proposer des TPAS pour les agents qui arrivent à 2-3 ans à la retraite. Après, ce qui se passe, c'est qu'ils ont recours beaucoup à des agents d'intérim. Ils créent des CDI intérimaires. Et la Poste, après, quand ça leur plaît, quand l'agent fait correctement le boulot, ils cassent le contrat au niveau de la bonne intérim et réembauchent derrière. Et en sachant qu'il y aura des recours à des prestataires pour la distribution des colis.
Le facteur, c'est quand même une institution sociale. On a pu entendre récemment que les horaires de tournée allaient être modifiés, les secteurs de tournée allaient être tournants. Quelle sera la vie des facteurs à l'avenir ?
Il faut que les gens ils s'habituent à plus avoir le même facteur, déjà. Et parce que la Poste, son souci, c'est de supprimer le titulaire de la tournée de facteurs. C'est-à-dire un facteur qui faisait la même tournée pendant 20 ans ou 30 ans, c'est fini, quoi. Bien sûr que ça les arrange. Peut-être pas dans le sens de la qualité de service, parce que il y a que vraiment le facteur qui fait toujours la même tournée, qui connaît bien ses clients, hein. Même des fois un peu trop. Je pense que c'est ce qui agace un peu la Poste. On retrouve un peu le même sentiment chez les conseillers financiers. Ils essayent de pas trop fidéliser les conseillers financiers avec les clients, mais avec le facteur, ils veulent faire la même chose. Et puis, ce sera de la main-d'œuvre ou polyvalente, c'est-à-dire le jour où il y a moins de travail, ben, on fait pas sortir le facteur, on le met sur une autre activité. Dans le sens où il est plus titulaire de sa tournée, où il n'y a pas la même tâche à faire tous les jours, ben, on peut s'en servir. C'est la polyactivité. Ils auront du personnel qui pourront mettre à quels que soient les horaires ou quels que soient les tâches à effectuer, quoi. Donc l'usager, il faut qu'il s'habitue à pu voir le facteur qu'il voyait depuis des années et des années, quoi.
Là, récemment, sur les fermetures de postes, est-ce qu'il y a une mobilisation qui s'organise en interne avec les syndicats ou avec les employés non syndiqués ? Et est-ce qu'il y a un dialogue avec la direction ?
On est pas mal convoqués au niveau des audiences pour les restructurations. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut exprès de nous convoquer tous en même temps, plusieurs réunions en même temps. On ne peut pas assister au niveau du Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il faut savoir que maintenant on est réunis au niveau du Nord et du Pas-de-Calais. Après, au niveau des agents, après c'est au cas par cas. S'il y a des gros soucis, ils prennent contact avec nous. Nous, après, derrière, on intervient au niveau de leur directeur. Quand on peut modifier quelque chose, on le fait. Mais après, c'est pareil, nous, on ne peut pas agir tout seul. Ça doit venir de la part des agents guichets ou des usagers, ou ça a été le cas sur Grenay.
Les gains de productivité, ça, impacte énormément, j'imagine, la qualité de vie au travail. Ça se ressent comment au sein de la Poste ?
Moi, je vais parler pour le courrier. On en arrive beaucoup, enfin, au niveau des salariés de la Poste. Alors, il faut savoir aussi, c'est qu'on est en minorité maintenant au niveau des fonctionnaires, hein, au niveau du pourcentage, quoi. Il y a beaucoup plus de contractuels, des CDI. Maintenant, il y a les CDD aussi. Il y a pas mal de prestataires. Chacun essaie de gagner un petit grade, parce que la Poste a bien manœuvré aussi. Hein. Ils ont une nivelle par le bas au niveau des fonctions, des grades. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un chef d'équipe, ben, on met un... Ils appellent ça un ROP maintenant, un responsable opérationnel, qui a les mêmes fonctions, mais bien sûr moins payé. Et on nivelle par le bas. Donc les gens, ben forcément, vu les salaires élevés qu'on a à la Poste, hein, tu le sais, ils essayent de gratter un petit peu, de faire des heures sup et tout ça. Et donc c'est beaucoup d'individualisme pour essayer de passer avant l'autre, pour essayer d'avoir un petit grade, pour essayer de gagner. Et souvent c'est 40-50 euros par mois, pas plus, quoi. Mais donc on arrive à... On n'a plus le rapport de force qu'on avait avant avec les fonctionnaires, quoi. C'est fort divisé, et alors dans les PFC, dans la plateforme de colis à Carvin par exemple, où ils travaillent à peu près avec, je sais plus combien, 30% de prestataires, c'est encore pire, quoi. Voilà, donc c'est compliqué. Tu parlais de syndicalisation et de mouvement et tout ça, on syndique, parce que sur de l'individuel, les gens, quand tu leur demandes, ils ont un souci, ils nous appellent, voilà, il se passe quelque chose. Ils pensent que c'est nous qui allons aller voir le patron, qu'on va déboucher, mais non. On leur dit, la base, c'est que nous, on est là pour vous aider, mais c'est vous. Si t'as pas le rapport de force, t'as beau aller voir le patron, si t'es tout seul, ça passera pas. Si tout le service descend, le patron va dire, ben ouais, qui c'est qui va faire mes tournées ce matin? Qui c'est qui va distribuer mes colis? Moi, je vais me faire engueuler par ma direction. Donc là, il te reçoit, il t'écoute. Et ça, on a du mal, ce message-là, on a du mal à faire passer chez les jeunes. Et les anciens, ils sont blasés. Ou proche du départ, quoi. Donc voilà, c'est pas simple. Mais bon, là je parle au niveau départemental, mais on gagne encore beaucoup de luttes, des petites luttes, peut-être insignifiantes pour la Poste, mais on arrive à gratter sur localement, dans des départements, dans la Creuse, dans la Haute-Saône, dans la Loire et tout ça. Et tous les jours, il y a des mouvements, nous on reçoit de ce qui a été gagné, des CD décrets, de signés, on recule un peu en arrière sur des réorgs, tu vois, au lieu de faire une productivité de 10, ben, ils n'en font plus que de 6, donc on a gagné 4 positions de travail. Donc c'est pas forcément des licenciements, hein. C'est-à-dire des positions de travail, puis le gars il a perdu son poste, donc on lui propose un autre poste ailleurs, mais c'est du déplacement. Alors si le gars il travaille dans cette ville-là, changement de ville, la famille, les enfants, enfin voilà, c'est...
Au niveau du métier, est-ce que, au niveau des agents, est-ce que justement cette pression qu'il y a pour la rentabilité, la productivité, est-ce qu'il y a par exemple des burn-out, est-ce qu'il y a des gens qui sont à bout ou qui commencent à l'être?
Au niveau des effets de pression, il faut savoir qu'il y a pas mal de pression au niveau de la hiérarchie. C'est très très fréquent dans les bureaux de poste. La population est... En fait, c'est tabou pour la Poste, ils n'en parlent pas au niveau de la population, mais il faut savoir qu'il y a pas mal, on a eu pas mal de suicides, il y a pas mal de dépression des agents qui sont à bout, parce que ben, la pression, les conditions de travail, la Poste demande toujours de plus en plus aux agents, et c'est insupportable pour eux.
Voilà, je voulais rebondir, apporter quelques éléments d'ailleurs, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre rapidement. Voilà quelques informations glanées hors micro, pardon. Donc effectivement, il y a visiblement, de ce que j'ai compris, une véritable dégradation des conditions de travail. Voilà, là, il est question de rentabilité, de productivité, donc de pression sur les travailleurs et les travailleuses pour essayer d'en extraire un maximum. Après, il y a aussi tout un tas de techniques managériales qui relèvent ici peut-être de l'infantilisation ou de la culpabilisation avec des blâmes, ce genre de choses. Concernant la Poste, il faut savoir qu'à la Poste, il y a une restructuration tous les 24 mois. Ça explique aussi peut-être ce manque de réaction, la difficulté de réussir à mobiliser même les usagers, parce qu'en fait c'est un mouvement perpétuel, et puis tous les 24 mois on analyse comment fonctionne la Poste, quelle est sa productivité, où est-ce que ça pourrait être amélioré, et on restructure. Concernant la revente des bureaux de poste, il faut aussi savoir qu'un bureau de poste, c'est un bien immobilier. Et que donc, d'un point de vue national, la Poste revend énormément de bureaux parce que ça lui permet de renflouer ses caisses. Enfin, concernant l'ouverture à la concurrence, c'est peut-être un élément intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé avec la SNCF. Le cas est absolument différent parce que à la Poste, il y a une ouverture à la concurrence, mais à chaque fois, c'est avec des entreprises d'État. Donc, c'est un actionnariat étatique, donc qui reste soit fonctionnaire, soit contractuel avec l'État. En revanche, cas particulier pour la Poste, elle sous-traite beaucoup, mais elle se sous-traite à elle-même. Donc elle crée sa propre concurrence qui après va pouvoir justifier qu'elle se délègue d'un service un peu à l'ancienne et peut-être un peu trop lent ou trop, parce que trop humain. Voilà, ce genre de choses, je terminerai là-dessus.
Bien, merci Luc. Et puis effectivement, je pense que ça fait aucun doute, Microrebelle aura l'occasion de revenir sur ce qui se passe à la Poste et sur les luttes qui ne manqueront pas de s'y mener. Je vous le disais en introduction de ce Microrebelle Hebdo, on est avec Touga, une des adhérentes de Microrebelle. Alors Touga, tu voulais nous évoquer un livre que tu as lu cet été.
Ouais, je viens de terminer un livre là dont je voudrais vous parler et vous lire aussi quelques extraits. C'est un livre qui s'appelle « Une colère noire, lettre à mon fils ». De l'auteur afro-états-unien Ta-Nehisi Coates. Le titre original, c'est Between the World and Me. Et donc, dans la version française, il y a une préface d'Alain Mabankou. Donc, pour situer ce livre, je présenterai d'abord rapidement l'auteur. Donc, Ta-Nehisi Coates, il est né en 1975 à Baltimore, aux États-Unis. Et dans ce livre-là, en fait, il s'adresse à son fils de 15 ans pour lui parler de ce que ça veut dire qu'être noir aux États-Unis. Et en lui parlant de ça, en fait, il lui parle de lui, sa propre enfance, son parcours de vie et un peu tout ce qu'il a vu, entendu, ressenti et au fur et à mesure de sa vie, comment il s'est construit voilà, avec ça. Il parle notamment de notion de peur, la peur qu'il a eue et qu'il a encore, qui s'est peut-être transformée, mais qui reste. Il parle de la notion du rêve, le rêve américain, qu'est-ce que ça signifie. Il parle du corps noir. Il parle de celles et ceux qui se croient blancs. Et... voilà, il dit par exemple, ils ont fait de nous une race, nous avons fait de nous un peuple. Donc, je vais commencer par vous lire un extrait qui se trouve au tout début, en fait, du livre. Fils, dimanche dernier, la présentatrice d'une célèbre émission d'actualité m'a demandé ce que signifiait cette expression que j'utilise souvent. Perdre mon corps. L'émission était diffusée depuis Washington et j'étais installée dans un autre studio situé à Manhattan. Un satellite annulait les kilomètres qui nous séparaient, mais aucune technologie n'aurait pu combler le fossé entre nos deux mondes. Le sien et celui au nom duquel j'étais invitée à parler. Lorsqu'elle a posé cette question, son visage a disparu de l'écran pour faire défiler quelques phrases que j'avais publiées cette semaine-là. Elle les a lues à l'intention des téléspectateurs. Et quand elle a eu fini, elle est revenue sur le sujet de mon corps, sans prononcer le mot pour autant. Je suis désormais habituée à ce que des personnes intelligentes m'interrogent sur mon corps sans saisir la portée de leurs questions. Plus précisément, la présentatrice voulait savoir pourquoi j'affirmais que le progrès de l'Amérique blanche, ou plutôt le progrès de ces Américains qui se croient blancs, de ses croyants, était fondée sur le pillage et sur la violence. En l'écoutant, j'ai senti monter en moi une tristesse ancienne, profonde et confuse. La réponse à cette question, c'est la mémoire des croyants eux-mêmes. C'est l'histoire américaine. Deuxième extrait, page 126, dans la version de ce livre édité, c'est la collection J'ai lu. La réunification américaine s'est construite sur un récit confortable qui faisait de l'esclavage une forme de bienveillance et transformait les voleurs de corps en chevaliers blancs, et considérait le massacre de masse propre à la guerre comme une sorte d'épreuve sportive dont on pouvait dire que les deux camps avaient conduit leurs affaires avec courage, honneur et panache. Ce monde de la guerre de sécession, ce mensonge, pardon, de la guerre de sécession, est le mensonge de l'innocence. C'est le rêve. Ce rêve, ce sont des historiens qui l'ont fait apparaître. Hollywood l'a renforcé. Le rêve a été enluminé d'or par les romans et les récits d'aventure. Tu n'as pas besoin de croire que le policier qui a étranglé Eric Gardner est sorti ce matin-là dans le but de détruire un corps. Tout ce que tu dois comprendre, c'est que ce policier porte en lui le pouvoir et la puissance d'un État américain et le poids de l'héritage national. Deux choses qui font que parmi l'ensemble des corps détruits chaque année, le nombre de corps noirs est bien supérieur. Et ceci dans des proportions hallucinantes. Voilà ce que je voudrais que tu saches. En Amérique, la destruction du corps noir est une tradition, un héritage. L'esclavage n'a pas consisté simplement à emprunter la force de travail des Noirs. Il n'est pas si facile de demander à un être humain d'engager son corps dans une activité qui va à l'encontre de son intérêt le plus élémentaire. L'esclavage doit donc être fait de violents coups de colère, de massacres perpétrés au hasard, de visages balafrés et de cerveaux qui explosent au-dessus d'une rivière alors que les corps cherchent à s'échapper. Donc, je continuerai la lecture d'extraits en introduisant cet extrait-là. Pour introduire donc cet extrait-là, j'ai besoin d'expliquer que l'auteur lui-même le dit dans des interviews. Un des déclenchements qui a marqué un peu son histoire et qui, entre autres, lui a donné envie d'écrire ce livre, c'est la mort d'un ami à lui d'université qui s'appelle Prince Jones, qui a été abattu à l'âge de 25 ans, un mois avant la naissance du fils de l'auteur à qui il adresse ce livre. Et ce Prince John, donc, il était issu d'une famille bourgeoise, il était noir, et il a été tué par un policier qui se trouve être noir aussi. Et donc, voilà, ça a beaucoup marqué l'auteur. Et à un moment donné, il rencontre la mère donc, de ce jeune homme décédé. Et l'extrait se trouve à la page 166. Elle ne pouvait pas compter sur son pays pour obtenir de l'aide. Pour son fils, le pays de Dr. Jones faisait ce qu'il savait faire le mieux. Il l'oubliait. L'oubli est une habitude. C'est un autre composant nécessaire du rêve. Ils ont oublié l'ampleur du vol qui les a enrichis grâce à l'esclavage, la terreur qui leur a permis, pendant un siècle, de bourrer les urnes, la politique ségrégationniste qui leur a offert leur belle banlieue. Ils ont oublié parce que ce souvenir les éjecterait hors du rêve et les forcerait à vivre avec nous, ici-bas, dans le monde. Je suis convaincue que les rêveurs, au moins les rêveurs d'aujourd'hui, préférerait vivre blanc que vivre libre. Dans le rêve, ils sont Buck Rogers, le prince Aragorn, une race entière de Luke Skywalker. Les réveiller, c'est leur apprendre qu'ils forment un empire d'êtres humains et que, comme tous les empires humains, celui-ci est construit sur la destruction du corps. C'est souiller leur belle noblesse, en faire des gens vulnérables, faillibles, cassables. Page 62. J'avais devant moi, sous mes yeux, le monde noir. Je me rendais compte que ce monde était bien plus qu'un négatif du monde de ceux qui se croient blancs. L'Amérique blanche est une sorte de syndicat déployé pour protéger son pouvoir exclusif de domination et de contrôle sur nos corps. Parfois, ce pouvoir est direct, lynchage. Parfois, il est insidieux, discrimination. Mais, quelle que soit la manière dont il se présente, le pouvoir de domination et d'exclusion est au centre de la croyance dans le fait d'être blanc. Sans lui, les blancs cesseraient d'exister, faute de raison d'exister. Bien sûr, il y aura toujours des gens aux cheveux raides et aux yeux bleus, ils ont d'ailleurs toujours existé. Mais certains de ces gens, dont les cheveux sont raides et les yeux bleus, ont parfois été considérés comme noirs. Et c'est précisément la grande différence entre leur monde et le nôtre. Nous n'avons pas choisi nos barrières. Elles nous ont été imposées par des planteurs de Virginie, obsédés par l'idée de transformer autant d'Américains que possible en esclaves. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, je viens de vous lire des extraits issus du livre « Une colère noire, lettre à mon fils » de Ta-Nehisi Coates, donc un auteur, un écrivain et journaliste afro-états-unien. C'est donc une longue lettre qu'il adresse à son fils de 15 ans.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur les ondes de nos amis de PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr. .fr
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.